Des mines au marché. Comment l'Afrique et l'Europe peuvent devenir des partenaires de choix pour une industrie verte? Les Européens recherchent des sources sûres de matières premières essentielles, alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus contestées. Certains gouvernements africains souhaitent tirer davantage profit de cette demande croissante et restreignent l'exportation de matières premières pour favoriser la création de valeurs ajoutées locales, comme la transformation et la fabrication dans le pays. L'UE devrait adopter une position plus claire sur les aspects de la chaîne de valeur des matières premières critiques auxquelles elle souhaite participer en Afrique, qu'il s'agisse de la transformation en amont, en milieu de chaîne ou en aval. Les décideurs européens peuvent se positionner au mieux en fournissant des instruments de financement pour réduire les risques et catalyser les investissements du secteur privé, qui débloqueront la production locale et la valeur ajoutée prioritaire pour les décideurs politiques africains. Les Européens devraient également adopter une approche régionale en connectant des projets individuels à des systèmes plus vastes, comme l'illustre le corridor de Lobito en RDC, en Zambie et en Angola. L'UE peut également se distinguer en tant que partenaire en prônant une application plus stricte des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, contrairement aux normes généralement moins strictes imposées par ses rivaux géopolitiques. Dans ce cadre, l'Union devrait collaborer avec ses partenaires pour que la Chine adhère au partenariat pour la sécurité minière. Elle devrait également promouvoir l'adhésion de l'Afrique à ce partenariat. Des minéraux pour un bénéfice mutuel. La relation de l'Union européenne avec l'Afrique repose sur des valeurs et intérêts communs, selon les déclarations officielles du Bloc. Pourtant, un test clé de ces valeurs et intérêts partagés réside dans la manière dont les Européens engagent leurs homologues africains dans la diplomatie autour des matières premières critiques, MRC, et de la transition énergétique, pour laquelle ces matières sont si importantes. Cela est particulièrement vrai dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes à travers le monde. Les chaînes d'approvisionnement en métaux et minéraux, nécessaires à une multitude de produits, des appareils électroménagers intelligents aux avions électriques, deviennent de plus en plus l'objet d'une concurrence stratégique entre États. Depuis 2020, l'UE a conclu des accords avec de nombreux États africains afin de garantir l'accès aux MRC pour les marchés européens, contribuant ainsi à la décarbonation de certains pans de l'économie européenne et à son adaptation aux avancées technologiques. De leur côté, les gouvernements africains cherchent à exploiter les opportunités liées à la transition énergétique pour aider leur pays à s'industrialiser et à accéder à la souveraineté économique. Conscients de ce constat, les Européens devraient définir clairement et précisément les segments de la chaîne de valeur des MRC dans lesquels ils souhaitent investir en priorité, qu'il s'agisse de l'extraction minière, une activité dominée par les entreprises affiliées à la Chine et d'autres multinationales, ou de la transformation locale pour la fabrication de produits à valeur ajoutée. Cette dernière option est probablement la plus fructueuse. Les décideurs politiques africains ne se contentent plus de voir des matières premières exportées à l'étranger. Ils réclament de plus en plus une industrialisation locale, notamment par la valorisation des minéraux, activité qui améliore leur valeur économique, et la création de valeurs au-delà de la fusion et du raffinage. Concrètement, cela impliquera que les Européens co-investissent dans des projets tels que la construction d'usines de traitement pour transformer les matériaux fraîchement extraits en produits intermédiaires utilisables, comme les cellules précurseurs nécessaires à la fabrication de batteries pour voitures électriques. Les Européens doivent donc veiller à ce que les accords conclus avec les États africains atteignent ces objectifs. Ce faisant, les pays africains auront une perspective réelle et viable de devenir des destinations de proximité, permettant à l'UE et à ses États membres d'accroître et de diversifier leur accès aux marchés de capitaux. Cette note d'orientation examine les aspects de la chaîne de valeur des minéraux critiques africains auxquels l'UE peut raisonnablement participer et comment elle peut contribuer à canaliser les investissements dans ces minéraux vers les pays africains, dans l'intérêt mutuel de toutes les parties. Elle examine également comment l'Union peut promouvoir les normes du travail et environnemental à toutes les étapes du commerce des minéraux critiques. L'UE a l'opportunité de se distinguer comme un partenaire privilégié et de garantir aux communautés minières africaines un meilleur traitement de la part des concurrents pour leur production. L'impératif climatique et la transition énergétique. L'UE et les pays européens et africains sont signataires de l'accord de Paris, qui vise à contenir la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Mercalli par rapport au niveau pré-industriel. Dans le cadre de la Conférence des parties des Nations unies, les États s'engagent à prendre des mesures pour décarboner leurs économies. Cela comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre de toutes sources. Les combustibles fossiles représentent 80% de l'approvisionnement énergétique mondial. Parallèlement, les répercussions de la guerre russe contre l'Ukraine et l'intensification des tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, ont contraint de nombreux gouvernements à adopter des lois, des réglementations et des politiques visant à atténuer les risques stratégiques pesant sur la chaîne d'approvisionnement en ressources énergétiques et en MRC, nécessaires à la transition énergétique. Cette transition implique le recours aux énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, l'hydrogène et d'autres solutions, notamment les nouvelles formes de mobilité comme les véhicules électriques. Les MRC tels que le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel sont essentiels à toutes ces innovations. L'UE a également introduit le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, outil phare pour encourager une production industrielle plus propre dans les pays tiers. Le MACF est l'un des piliers centraux de l'ambitieux programme Ajustement à l'objectif 55 de l'UE. Une fois pleinement mise en œuvre à partir de 2026, cette mesure obligerait les importateurs de secteurs industriels lourds tels que le ciment, le fer, l'acier et l'aluminium à surveiller et déclarer les émissions intégrées à leurs produits. Elle est devenue un sujet de conflit diplomatique, certains gouvernements africains estimant que des outils comme le MACF imposent un fardeau injuste aux économies les plus pauvres. L'opportunité de l'industrialisation africaine. L'Afrique demeure le continent le moins diversifié économiquement au monde. Malgré l'abondance de leurs ressources énergétiques et minérales, les pays africains ont peu progressé en matière d'industrialisation. De ce fait, ils sont fortement exposés aux chocs commerciaux extérieurs, tels que ceux subis pendant la pandémie de COVID-19 et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Nombre d'économies africaines sont petites, ouvertes et peu diversifiées. Elles exportent d'importantes quantités de matières premières, mais leurs activités sur place sont limitées pour valoriser les matières extraites, par exemple en les transformant en d'autres matériaux utilisables dans les processus industriels. Ces défis structurels continuent de compromettre les perspectives de croissance économique des pays africains et la prospérité accrue nécessaire à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les États africains peinent depuis des décennies à relever ce défi de diversification. Dans les premières années suivant les indépendances, de nombreux pays africains étaient plus prospères et plus productifs que leurs homologues d'Asie de l'Est. Nombre de ces économies asiatiques, autrefois qualifiées de « cas désespérés », ont amélioré leur situation grâce à l'industrialisation et à la valorisation de leurs produits. Cette situation est due à l'essor de la libéralisation et de la mondialisation à partir des années 1980 et aux investissements massifs qui en ont résulté, notamment dans le capital humain. Outre l'échec des États africains à suivre cette voie, les coûts du service de la dette ont augmenté. Les déséquilibres commerciaux se sont aggravés et les coûts de transport et autres coûts de consommation ont augmenté. Des facteurs internes, tels que l'instabilité politique récurrente, ont également entravé cette évolution. Plus récemment, la productivité en Afrique a diminué depuis 2012 et reste similaire au niveau du début des années 1980, avant que les programmes d'ajustement structurel ne soient promus et imposés à de nombreux États africains par des institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. Alors que les décideurs politiques nourrissaient autrefois l'espoir d'une croissance tirée par les services, celui-ci ne s'est pas concrétisé. Parallèlement, l'évolution de la mondialisation et du développement technologique, illustrée par l'augmentation des compétences et de l'intensité capitalistique des technologies manufacturières, signifie également que les perspectives d'industrialisation axées sur l'exportation s'éloignent, ce qui rend plus difficile d'imiter le miracle économique est-asiatique. En effet, les pays africains pourraient même avoir connu une désindustrialisation prématurée. Les pays africains sont ainsi restés largement exportateurs de matières premières primaires, notamment vers des économies asiatiques, clés comme la Chine, où une quantité importante de MRC africains est transformée en produits à valeur ajoutée, tels que les batteries pour véhicules électriques. De nombreuses sociétés minières opérant en Afrique exportent des produits primaires et semi-transformés, avec peu ou pas de valeur ajoutée locale. Par exemple, la République démocratique du Congo, RDC, et la Zambie représentent 9% et 4% de la production mondiale de cuivre, mais elles n'en raffinent respectivement qu'environ 7% et 1,3%. La transition énergétique implique une demande croissante de MRC, et l'Afrique dispose des MRC nécessaires pour y répondre. L'Afrique subsaharienne recèle à elle seule plus de 50% de certains des minéraux essentiels nécessaires à la transition énergétique. Le continent est particulièrement bien placé pour jouer un rôle important dans les chaînes d'approvisionnement internationales en MRC. De nombreux pays africains fournisseurs potentiels sont à 3 à 5 semaines de l'Europe, et nombre d'entre eux entretiennent des relations avec l'UE et ses États membres qui peuvent les aider à réaliser la diversification « friendshoring » souhaitée par les décideurs politiques européens. Partout sur le continent, les décideurs politiques africains considèrent la transition énergétique comme une seconde chance d'industrialiser enfin leurs économies. Ils souhaitent trouver des moyens de valoriser les matières premières extraites dans leur propre pays et de s'assurer l'accès à des technologies de traitement des minéraux de pointe sur leur territoire. En ce qui concerne les MRC en particulier, la valorisation peut apporter de la valeur ajoutée. Celle-ci commence à jouer un rôle croissant dans les politiques économiques, commerciales et industrielles des pays africains. Les préférences des décideurs politiques africains offrent aux entreprises européennes, du secteur intermédiaire et en aval, l'opportunité d'aider l'Afrique à s'industrialiser grâce à la valorisation, en développant des liens horizontaux, verticaux et secondaires au sein des pays et des corridors régionaux pour la fabrication de moyennes et hautes technologies. Ce faisant, les décideurs politiques africains souhaitent enfin s'attaquer à la malédiction des ressources, qui fait que les pays riches en ressources peuvent se retrouver avec des résultats inférieurs en matière d'égalité, de pauvreté, d'accès à l'éducation et aux soins de santé par rapport aux pays qui n'en bénéficient pas. L'industrialisation de l'Afrique peut créer de nouveaux emplois durables pour sa population croissante. Des millions de jeunes rejoignent le marché du travail chaque année, et le continent s'urbanise de plus en plus. En outre, l'industrialisation verte en Afrique peut contribuer à rendre les produits abordables. De nombreux pays africains pourraient leur fabriquer à des prix compétitifs les produits associés à la chaîne de valeur des MRC, utilisés dans les technologies de transition énergétique. Par exemple, une étude de 2021 montre qu'un précurseur de cathode de 10 000 tonnes serait 3 fois moins cher à produire en RDC qu'aux États-Unis ou en Chine, et 2 fois moins cher qu'en Pologne. Les investissements européens dans de tels projets en Afrique pourraient également générer des avantages en termes de carbone. La même étude révèle que les matériaux précurseurs d'approvisionnement en cathode seraient 30% moins chers que les chaînes chinoises existantes s'ils étaient produits en RDC avec un assemblage ultérieur en Pologne et en Allemagne. Cela est principalement dû au recours aux énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, en Afrique pour alimenter le processus industriel. L'industrie minière comprend les étapes amont, intermédiaire et aval. Les activités classées en amont vont de l'exploration et de la prospection au développement, à la production et à l'abandon des mines. Les activités intermédiaires et aval comprennent la transformation des matières premières et leur transport vers la fusion, le raffinage et la valorisation. En Afrique, plusieurs entreprises européennes opèrent à une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Parmi elles, des multinationales telles qu'Anglo American, Glencore, Endeavour Mining, Boliden, Eramet et Imerys. Évolution de la politique africaine. En réponse à ces impératifs, depuis 2022, plus de 12 pays africains ont soit imposé des interdictions d'exportation pures et simples sur divers MRC, soit restreint leurs exportations. Si ces mesures ne sont pas entièrement nouvelles, le changement de contexte géopolitique consécutif à la pandémie et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment la tendance au « friendshoring », a catalysé et donné une impulsion accrue à de nombreux gouvernements africains et étrangers pour imposer de telles restrictions afin de forcer la création de valeurs ajoutées locales. Leur objectif est d'obliger les entreprises européennes et internationales à traiter les MRC et à créer de la valeur localement, notamment en garantissant davantage de contenus et de participation locaux, comme une plus grande part de l'emploi, des services, de l'offre manufacturière et de la valeur financière globale pour l'économie locale. À titre d'exemple, en décembre 2022, le Zimbabwe a interdit les exportations de lithium brut afin d'encourager la transformation des métaux sur place. Suite à cela, Des rapports indiquent que le pays a triplé ses recettes d'exportation de lithium en un an. De même, après la récente découverte de lithium au Ghana, le gouvernement a chargé une société minière australienne, cotée à l'AIM de Londres, de réaliser une étude de faisabilité pour la construction d'une usine de conversion chimique du lithium en aval. Selon les termes de l'accord envisagé, si l'entreprise ne parvient pas à établir une usine chimique au Ghana, elle doit fournir son lithium à toute usine chimique établie par des tiers dans le pays. L'objectif est de maintenir cette étape du processus au Ghana. Le gouvernement d'Accra recherche également des investissements pour développer des raffineries à valeur ajoutée dans le cadre d'un modèle de partenariat public-privé, PPP. Ce type de projet offre aux entreprises de transformation des minéraux de l'UE des moyens de soutenir la création de valeurs locales, tout en sécurisant l'approvisionnement en MRC semi-transformés pour les marchés européens. Ces initiatives s'appuient également sur des protocoles de développement régional établis de longue date, tels que l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Vision minière africaine. Par exemple, cette dernière enjoint les pays à exploiter leurs ressources minérales de manière transparente, équitable et optimale, afin de soutenir une croissance durable et un développement socio-économique à grande échelle. Pour ce faire, ils peuvent accroître leur capacité de transformation nationale et développer des liens avec d'autres secteurs de l'économie, en progressant dans la chaîne de valeur, en abandonnant la seule activité minière qui représente 11 milliards de dollars, et en se lançant, par exemple, dans la production de cellules qui représente 387 milliards de dollars. Ils peuvent créer 35 fois plus de valeur et, par extension, davantage d'emplois et de recettes fiscales. La politique européenne et l'impératif du « friendshoring ». La Commission européenne reconnaît que l'UE est fortement dépendante d'autres pays pour l'importation de MRC et qu'elle devrait le rester dans un avenir proche, faute de ressources propres suffisantes. L'UE s'approvisionne à 63% en aluminium en Guinée, à 41% en manganèse en Afrique du Sud et à 35% en tantale en RDC. En termes politiques, l'UE s'est fixé comme objectif de garantir au plus 65% de sa consommation annuelle de chaque matière première stratégique, à tout stade de transformation pertinent, provenant d'un seul pays tiers. Autrement dit, l'UE cherche à diversifier ses sources de MRC. L'Afrique peut contribuer à combler ce déficit, tandis que l'UE soutient l'industrialisation africaine, un résultat mutuellement bénéfique. Si, à bien des égards, les liens entre l'Afrique et l'Europe restent occultés par l'héritage colonial, ces relations ont évolué ces dernières années pour englober le dialogue et la coopération mutuelle, notamment sur les MRC. L'UE a exprimé son inquiétude face aux interdictions et restrictions d'exportation de ressources introduites par les pays africains, suggérant que ces mesures pourraient violer les instruments commerciaux bilatéraux et le droit de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Néanmoins, rien ne laisse présager que cette objection se transforme en une situation plus sérieuse. Les récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, concernant l'utilisation de Global Gateway comme cadre pour des partenariats ambitieux et stratégiques favorisant une transformation structurelle, confirment un ton de réciprocité. Global Gateway est le principal programme international d'investissement de l'UE dans les infrastructures. Ce programme a été élaboré pour aider les Européens à concurrencer la Chine dans le cadre de ses investissements massifs dans les infrastructures à travers le monde, notamment grâce à son initiative « La ceinture et la route ». L'un des piliers de Global Gateway est axé sur les investissements durables dans les infrastructures, notamment dans le numérique, l'énergie et les transports. Il vise à mobiliser 150 milliards d'euros d'investissements publics et privés pour l'Afrique d'ici 2027. Global Gateway s'inspire également du partenariat Afrique-UE pour l'énergie, qui vise à améliorer l'accès à une énergie sûre, abordable et durable pour les deux continents, en mettant l'accent sur l'augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique. En mars 2023, l'UE a adopté la loi sur les matières premières critiques, dont l'objectif est de développer un approvisionnement durable en MRC. Pour atteindre les objectifs de la loi, l'Union cherche à conclure des accords de « friendshoring » avec des partenaires ou des pays non rivaux du Sud, y compris en Afrique. L'approche stratégique de l'UE pour obtenir des MRC se traduit concrètement par l'établissement de partenariats stratégiques sur ces MRC, par la signature de protocoles d'accord avec des pays africains tels que la RDC, la Zambie, le Rwanda et la Namibie. Parallèlement, le secteur privé européen peut jouer un rôle important en fournissant les capitaux et les technologies nécessaires pour accroître la transformation des minéraux et la valeur ajoutée recherchée par les gouvernements africains dans le cadre de tels accords. Les échanges avec les institutions européennes et le secteur privé axés sur le partenariat UE-Namibie suggèrent qu'il est essentiel de mettre en place les instruments financiers appropriés pour réduire les risques liés aux investissements, en particulier pour les MRC, qu'il s'agisse de l'exploitation minière en amont ou de la fabrication de composants de batteries en aval. Le défi de la Chine. Les entreprises chinoises, entre autres, sont implantées de longue date dans de nombreux pays africains et ont réalisé des investissements importants tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction minière aux installations de traitement. Cette présence peut poser des difficultés aux États européens qui cherchent à établir des partenariats dans le domaine des minéraux critiques, notamment s'ils tentent de se concentrer sur les activités en amont. Actuellement, les entreprises chinoises exercent un contrôle important sur les chaînes d'approvisionnement, de l'extraction minière aux activités limitées de fusion et de raffinage qui existent dans certains pays africains, comme c'est le cas du cuivre et du cobalt en RDC et en Zambie, de la bauxite en Guinée et du lithium au Zimbabwe, voire tableau. Cela étant dit, les multinationales minières occidentales sont également souvent présentes, y compris dans certains cas en tant que partenaires de coentreprise avec les Chinois. Par exemple, le projet de minerai de fer de classe mondiale de Simandou de Rio Tinto en Guinée est un partenariat avec un consortium dirigé par Chinalco. La République de Guinée détient également des intérêts supplémentaires dans les concessions. La domination chinoise dans le secteur minier en amont laisse peu de marge de manœuvre aux Européens pour s'engager à ce stade du processus. Cependant, si les États membres de l'UE souhaitent s'assurer que les entreprises européennes soient directement impliquées, ils devraient chercher à s'associer à des multinationales minières occidentales déjà présentes en Afrique ou à s'approvisionner en minéraux auprès de pays africains au potentiel géologique avéré, mais peu exploré à ce jour. Cependant, ils devraient entreprendre des projets d'exploration de grande envergure et, à terme, agrandir ou construire de nouvelles mines tout au long du cycle de vie du projet. Même dans ce cas, les exigences réglementaires et de planification signifient qu'une augmentation de l'approvisionnement en minéraux de l'UE pourrait prendre un certain temps à se matérialiser. Actuellement, il faut en moyenne 14 ans pour développer une nouvelle mine de cuivre en RDC et en Zambie, ce qui est proche de la moyenne mondiale de 16 ans pour ce type d'activité. Il est important de noter que les sociétés minières chinoises et autres multinationales n'investissent pas autant dans la création de valeurs locales que le souhaiteraient les décideurs africains. De plus, la domination de la Chine en Afrique pourrait bien ne plus être assurée. Des études du FMI et d'autres montrent que les prêts souverains chinois à l'Afrique subsaharienne ont atteint en 2022 leur plus bas niveau depuis près de 20 ans. Cela reflète un abandon du financement des infrastructures à fort impact, en raison de l'augmentation de la dette publique de nombreux pays africains et des priorités nationales de la Chine. Les flux d'investissement directs étrangers chinois ont diminué à 1,8 milliard de dollars en 2022, contre 5 milliards de dollars un an plus tôt. Dans ce contexte, des modèles de coopération tels que le projet PPP du Ghana évoqué précédemment peuvent aider l'UE à concrétiser le friendshoring compte tenu de la concurrence chinoise. Ce projet, par exemple, permettra probablement à l'UE d'être le premier acheteur pour l'exportation de produits intermédiaires semi-finis destinés à la fabrication de cellules de batterie et d'autres composants nécessaires à la transition énergétique, plutôt que de les envoyer en Chine, où la plupart des matières premières sont déjà acheminées. Ainsi, l'UE a l'opportunité de collaborer étroitement avec les pays africains, dans une optique de jeu à somme non nulle, afin de soutenir leurs objectifs d'industrialisation. La possibilité d'une délocalisation amicale peut permettre d'accroître la production et la valeur locale et de contrer l'influence de la Chine. Point crucial, du point de vue des décideurs africains, le gain de l'Europe ne serait pas une perte pour l'Afrique. L'UE dispose de toute façon de capacités de transformation limitées. Des produits plus raffinés répondraient donc mieux aux besoins de l'industrie européenne et constitueraient une solution gagnant-gagnant, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement européennes et en répondant aux ambitions de délocalisation amicale de l'UE. Cependant, l'UE et les États européens semblent actuellement intéressés par une implication à toutes les étapes de la chaîne de valeur des MRC. Ou, du moins, ils n'ont pas précisé dans quel domaine ils souhaitent se spécialiser. Cela pourrait entraver l'efficacité de leurs efforts. L'amitié grâce à une approche régionale. Les Européens devraient particulièrement envisager une approche régionale pour l'exportation de MRC en Afrique. Le développement conjoint entre les États africains, l'UE et les États-Unis du corridor de Lobito, qui relie le sud de la RDC et le nord-ouest de la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito en Angola, en est une bonne illustration. L'UE et les États-Unis se sont engagés à financer, en combinant ressources financières et savoir-faire technique, une étude de faisabilité pour l'extension d'une nouvelle ligne ferroviaire entre la Zambie et l'Angola, réduisant ainsi les coûts logistiques et potentiellement l'empreinte carbone des MRC exportés. De telles approches régionales contribueront notamment à promouvoir les investissements colocalisés en aval et en milieu de chaîne, là où la valeur ajoutée se produit. Dans ce cas, l'infrastructure ferroviaire en milieu de chaîne transporterait le cuivre de la RDC vers la Zambie ou l'Angola, par exemple, pour sa transformation en précurseur, ce qui signifie que la valeur est conservée sur le continent plutôt qu'ajoutée en Europe ou en Chine. Le budget 2022 de la Zambie indique que le gouvernement souhaite tripler sa production de cuivre, de 880 000 tonnes à 3 millions d'ici 2030. Le président pro-occidental, Hakainde Hichilema, a qualifié cette initiative d'aube nouvelle pour le développement industriel et la création d'emplois en Zambie. Les coûts indicatifs s'élèvent à 30 milliards de dollars d'investissement, presque l'équivalent du PIB du pays en 2022, pour agrandir les mines existantes et en ouvrir de nouvelles, sur la base d'études d'exploration et des infrastructures logistiques associées. Le corridor régional complémentaire de Lobito pourrait contribuer à débloquer les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif de 3 millions. Il s'agit d'un exemple de partenariat prometteur entre les États africains, l'UE et les États-Unis en matière de financement et d'expertise technique. L'approche régionale peut aider les Européens et leurs partenaires à exploiter les opportunités de la chaîne de valeur et à contrer potentiellement d'autres influences géopolitiques. Le corridor de Lobito. En octobre 2023, l'UE a signé un protocole d'accord avec la Zambie et la RDC sur les minéraux critiques dans le cadre du projet Global Gateway. Cependant, ce partenariat stratégique n'a pas encore été pleinement détaillé dans une feuille de route ou un plan d'action. L'Union a signé des accords similaires avec le Canada, le Kazakhstan, la Namibie, l'Ukraine, l'Argentine et le Chili, et étudie également la possibilité d'accords avec le Rwanda et l'Ouganda. Certains des objectifs énoncés dans le protocole d'accord zambien sont les suivants. Développer une intégration économique et industrielle plus étroite des acteurs de la chaîne de valeur durable, des matières premières, en identifiant et en développant conjointement des projets de chaîne de valeur, des matières premières, innovants, durables et responsables. Promouvoir la valeur, la sécurité et la durabilité du commerce et de l'investissement dans des chaînes de valeur de matières premières résilientes, en amont et en aval, dans l'UE et en Zambie. Promouvoir l'alignement des chaînes de valeur des matières premières durables développées entre l'UE et la Zambie avec les principes et lignes directrices convenues au niveau international en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. Coopérer sur les compétences. Le renforcement des capacités et les aptitudes nécessaires au développement de chaînes de valeur durables des matières premières. Faciliter une coopération plus étroite en matière de recherche et d'innovation tout au long de la chaîne de valeur des matières premières, y compris l'exploration avancée, l'observation de la terre et les technologies innovantes d'extraction, de traitement, de raffinage et de recyclage. Certains des projets proposés dans le cadre du corridor de Lobito comprennent deux corridors ferroviaires, le chemin de fer atlantique de Lobito et le chemin de fer Zambie-Lobito, des projets de connectivité numérique et des infrastructures d'énergie verte, tels qu'un projet solaire de 500 MW. Améliorer les normes grâce à de nouveaux partenariats internationaux. De nouvelles formes de partenariats et de collaborations internationaux entre Européens et Africains peuvent favoriser le développement des différentes parties des chaînes de valeur des MRC de manière mutuellement bénéfique pour toutes les parties. Les Européens devraient également envisager de trouver des moyens d'impliquer d'autres États, y compris la Chine. De tels partenariats commencent déjà à prendre forme à l'échelle mondiale. Par exemple, le partenariat pour la sécurité des minéraux, PSM, qui regroupe 14 pays et l'UE, vise à catalyser les investissements publics et privés dans des chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux critiques à l'échelle mondiale. Les participants au PSM sont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et l'UE. Ce partenariat vise à apporter un soutien financier et diplomatique ciblé aux projets stratégiques tout au long de la chaîne de valeur et à identifier 4 défis majeurs à relever dans le domaine des minéraux critiques. Diversifier et stabiliser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Investir dans ces chaînes d'approvisionnement. Promouvoir des normes environnementales, sociales et de gouvernance, ESG, élevées dans les secteurs de l'extraction, de la transformation et du recyclage. Et accroître le recyclage des minéraux critiques. Le PSM a également un rôle clair à jouer dans l'amélioration des normes du secteur. Les engagements de l'UE en matière de droits des travailleurs et d'environnement impliquent déjà que l'Union a l'obligation de les surveiller et de les faire respecter dans ses relations extérieures. Les normes sont généralement plus strictes dans les projets menés par l'Europe, contrairement aux cas documentés et présumés de violation des droits des travailleurs et de tensions dans les mines exploitées par des entreprises affiliées à d'autres pays. De nouvelles avancées sur ces questions par les entreprises européennes amélioreront leur permis social d'exploitation, qui est l'idée générale de l'acceptation ou de l'approbation d'un projet par les acteurs des communautés locales concernées. À cet égard, les exigences juridiques de l'UE deviennent de plus en plus strictes et les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance exigent des engagements plus forts envers ces normes. Les entreprises minières européennes devraient se conformer à la nouvelle directive sur l'information en matière de développement durable des entreprises, qui exige de toutes les grandes entreprises et de toutes les sociétés cotées, à l'exception des micro-entreprises cotées, qu'elles divulguent les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales. Ces évolutions pourraient à terme entraîner une hausse des prix du produit final. Si les clients européens ne sont pas disposés à payer la prime, l'UE devra peut-être explorer d'autres moyens de couvrir la différence pour les produits fournis au bloc, en tenant compte des éventuelles préoccupations en matière d'aide d'État. Cela étant dit, pendant la pandémie de COVID-19, les sociétés minières affichant les meilleures notes ESG ont surperformé le marché global en offrant un rendement actionnarial supérieur de 10%. Par conséquent, la recherche de normes plus élevées pourrait bien présenter un avantage financier pour tous les acteurs. Le MSP est un outil essentiel pour faire respecter les normes ESG dans l'ensemble du secteur minier mondial, y compris pour les projets en Afrique. Ces dispositions trouvent déjà un écho, par exemple, dans l'un des objectifs déclarés du protocole d'accord entre l'UE et la Zambie, qui vise notamment à promouvoir l'alignement des chaînes de valeur des matières premières durables développées entre l'UE et la Zambie sur les principes et lignes directrices internationaux relatifs aux normes ESG. Le MSP a le potentiel de devenir un forum favorisant des avancées plus importantes sur cette question importante à tous les niveaux, avec des entreprises du monde entier. Cependant, un leadership européen sur cette question pourrait contribuer à définir le rôle de l'UE dans l'approvisionnement et le traitement responsable des MRC et à renforcer l'attrait des partenariats avec l'UE et les entreprises européennes, lui permettant ainsi de conclure davantage d'accords de friendshoring plus avantageux. Le MSP pourrait également faciliter les investissements nécessaires à l'apaisement des tensions liées au CBAM. Comment renforcer la sécurité minière de l'UE et stimuler l'industrialisation de l'Afrique ? Les décideurs politiques de l'UE devraient envisager d'adopter les approches suivantes pour renforcer leurs relations avec les pays africains dans le domaine des MRC. Clarifier à quelle partie de la chaîne de valeur des CRM africains participer. L'UE devrait clarifier ses objectifs stratégiques et son niveau d'implication souhaité dans les différents segments de la chaîne de valeur des matières premières critiques en Afrique. Sans une identification claire des domaines dans lesquels l'UE peut exercer une action compétitive au sein de l'espace des MRC africains, les protocoles d'accord signés par les États membres de l'UE avec les pays africains risquent de ne pas être à la hauteur. Les États membres de l'UE, les entreprises européennes et les institutions européennes souhaitent-ils participer à l'ensemble de la chaîne? ou seulement à certains segments de la transformation et de la fabrication des composants de batterie, en amont, en aval ou en milieu de chaîne. Une fois cette décision prise, les institutions européennes, en collaboration avec les entreprises européennes, pourront s'associer aux gouvernements africains pour leur fournir des financements et d'autres outils afin de construire et de développer les installations et les infrastructures de transport nécessaires à la transformation des matières premières en produits intermédiaires. Elles pourront ainsi soutenir la création de valeur en déployant des fonds pour développer de nouveaux pôles industriels verts au niveau national ou régional. Créer et déployer des instruments financiers pour débloquer les investissements des CRM dans les pays africains. L'UE pourrait se positionner de manière plus stratégique afin de mobiliser des financements pour le développement des infrastructures dans les chaînes de valeur des MRC. Pour débloquer ces investissements dans les pays africains, les institutions financières européennes doivent contribuer à réduire le coût et l'accès aux financements multilatéraux, bilatéraux et privés mondiaux pour les projets des chaînes de valeur des MRC. À cet égard, afin d'accélérer ces développements, l'UE devrait simplifier ses procédures d'approbation pour les transactions étrangères dont la valeur est inférieure à un seuil donné. L'approvisionnement en ressources minières renouvelables, MRR, de cette manière dépend fondamentalement de la volonté des institutions et des entreprises de l'UE de déployer le soutien financier nécessaire et les instruments de réduction des risques, y compris les garanties, aux entreprises africaines et européennes désireuses d'investir dans des projets d'exploration et de production minière, qu'ils soient greenfield ou brownfield, ainsi que dans des projets d'infrastructure et de logistique connexes. L'UE a l'opportunité de collaborer avec les États africains afin de soutenir leurs objectifs d'industrialisation, tout en répondant à ses propres aspirations en matière de sécurité des ressources minières renouvelables, MRR. Cela générerait des bénéfices mutuels pour toutes les parties, plutôt que de créer un jeu à somme nulle. Pour concrétiser cet objectif, l'UE doit mobiliser des instruments de financement, notamment des prêts et des crédits à l'exportation, afin de réduire les risques, de mobiliser et de catalyser les investissements du secteur privé dans les pays africains, et d'ajouter de la valeur aux chaînes de valeur des MRC. Comme l'illustrent les recherches de l'ECFR, les financements sous forme de prêts concessionnels, de subventions et de fonds mixtes de l'UE et d'autres institutions de financement du développement partenaire, ainsi que les crédits à l'exportation, joueront un rôle majeur, notamment au premier stade des projets miniers et d'infrastructures. Certains de ces financements sont actuellement mis en œuvre, mais pas dans les quantités requises. Ils ne sont pas non plus ciblés sur des segments spécifiques des chaînes de valeur de manière à produire leur effet maximal. Les décideurs politiques européens devraient également plaider auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres bailleurs de fonds internationaux pour qu'ils développent des instruments permettant de réduire les risques liés au secteur des MRC, de manière à permettre aux entreprises privées européennes d'investir. Historiquement, l'UE et les autres institutions financières internationales n'ont pas accordé d'importance à cette question, notamment en raison des exigences ESG élevées auxquelles le secteur minier est traditionnellement confronté par rapport aux autres secteurs. Adopter une approche régionale en matière de délocalisation d'AMIE. L'UE devrait collaborer avec les gouvernements et institutions africains pour développer et gérer les chaînes de valeur régionales et poursuivre l'approche de développement des corridors. Elle devrait promouvoir la coopération régionale entre les chaînes de valeur des MRC, en mettant l'accent sur le développement de la recherche et de l'innovation, l'harmonisation des politiques et des marchés, et la mise en place d'infrastructures communes, telles que le corridor de Lobito. Cela contribuera grandement à l'atténuation des risques, à la création d'emplois et à la sécurité énergétique. Intégrer la Chine au partenariat pour la sécurité des minéraux. L'UE et ses alliés, comme les États-Unis, devraient explorer les moyens d'inciter la Chine à adhérer au partenariat multipartite, PMP. Cela contribuerait à garantir une certaine applicabilité universelle des principes ESG dans les chaînes de valeur des minéraux responsables en Afrique et ailleurs. L'UE devrait également plaider en faveur de l'adhésion des pays africains riches en MRC, ou d'au moins un pays représentatif, au partenariat, afin de leur permettre de faire entendre leur voix et de défendre leurs préoccupations et leurs axes d'amélioration. Cela permettrait d'uniformiser les règles du jeu et de garantir une réflexion commune sur les quatre principaux défis liés aux minéraux critiques que le PMP cherche à relever. Outre l'Ukraine, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la Namibie était présente lors du lancement du PMP, mais n'en est pas membre.